Cher Moll, première partie, chapitre 3. Très facilement, Lucie Tirage prit les habitudes de ses compagnes et s'arrangea de leur manière de vivre. À son réveil, longtemps après le départ de l'amant de passage, elle sautait à bas de son lit pour aller entr'ouvrir la fenêtre, et tout de suite revenait se blottir dans les draps, humant l'air qui filtrait à travers les persiennes closes. De la chambre assainie disparaissaient les émanations puantes de tabac fumé, de champagne renversé. Un grand soulagement venait à la fille. Sa tête s'allégeait, sur son front rafraîchi les cheveux flottaient, lui donnant l'impression d'une douce caresse. Bientôt elle se sentait complètement éveillée, très bien portante. Elle se levait, et c'était d'interminables ablutions à l'eau parfumée, une contemplation attentive de son corps nu devant les glaces. Elle se peignait soigneusement, puis, sa toilette terminée, s'occupait à ranger la chambre. Les meubles étaient remis en leur place. Elle ramassait les épingles à cheveux, les boutons de culotte, les paquets de cigarettes vides et finissait par appeler Marianne pour lui rendre les flûtes à rincer. Lucie faisait tout ce ménage avec joie, heureuse de ne pas sentir dans ses jupes les mains luxurieuses des hommes, de ne pas avoir de leur souffle dans les cheveux. Des habitudes de sa jeunesse laborieuse, elle avait conservé cet amour de l'ordre, et sans trop savoir pourquoi, fatiguée des buveries tapageuses, elle aimait se trouver seule un moment, libre d'agir à sa guise, sans être en spectacle à personne. Elle prolongeait longtemps cette occupation. Ensuite, son cahier de linge l'absorbait en d'impatients calculs. Très fière de ses économies, elle comptait que, cette semaine encore, elle pourrait augmenter son trousseau de 2 taies d'oreiller ou d'une chemise à broderie. Avec une secrète appréhension de reprendre la tâche quotidienne, elle se décidait à descendre pour le repas du matin. Mais chaque fois, l'aspect de la table blanche l'animait d'une gaieté curieuse. Des porcelaines y luisaient parmi l'argenterie cliquetante. Des babillages bruyaient autour sans interruption. Assise entre ses compagnes préférées, elle leur demandait des détails sur les événements de la nuit précédente, sur l'argent acquis la veille. Maintenant, la question financière la préoccupait surtout. Elle en causait sans cesse, enviant beaucoup les plus riches. Car il semblait toujours à Lucie que cette situation n'était pas, pour elle, un état définitif. Il lui tardait pouvoir acquitter ses dettes, aller avec quelques économies tenter la chance d'un amour unique et rémunérateur. L'amour au lupanar lui paraissait seulement un moyen d'accroître son pécule. Comme elle n'éprouvait aucun plaisir à satisfaire les hommes, elle ne croyait pas se débaucher. Elle se comparait aux fillettes qui câlinent des parents très laids et très vieux pour en obtenir quelques cadeaux. Cela s'admettait. Pourquoi serait-elle plus coupable que ses enfants? Enchantée par cette excuse, elle s'ingéniait à parfaire sa gentillesse, désireuse d'augmenter le nombre de ses clients. Après le déjeuner, ces dames, restées longtemps à bavarder devant la table desservie, finissaient par se lever en s'étirant, et, traînant après elles leur long peignoir clair, elles allaient s'installer dans le petit salon. C'était une salle basse, tapissée de sombre. Le jour, venant d'un lanterneau, donnait une clarté triste, barré le plus souvent d'estries argentées de la grosse pluie ou moucheté des tourbillons grisâtres de la neige à demi fondue. Chacune apprêtait un ouvrage de crochet. Elle-même tirait de sa corbeille un tricot commencé. Et tandis que les autres allumaient les cigarettes, Lucie Tirache, adossée au mur, travaillait activement. Les filles la regardaient faire en buvotant des absinthes, en se répétant « Hein, va-t-elle vite ?» avec une admiration sincère pour son agilité et son adresse. D'abord, Lucie avait tricoté pour elle, par économie, afin d'éviter l'achat de bas et de camisoles que la Donard vendait très cher. Mais ses compagnes l'ayant prié de leur confectionner des hardes semblables, elle y consentit, dans une peur, si elle refusait, de fâcher, de se faire une ennemie. Madame réclama. Elle fit pour elle ce qu'elle avait fait pour les autres. Même, elle avait commencé un gilet pour monsieur. En paiement, on lui prodiguait des éloges et des caresses. Elle était très flattée de ses prévenances. Pour contenter un besoin naturel d'être choyée, elle s'appliqua à conserver ses bonnes grâces en rendant 1000 services. Elle tricotait toute l'après-midi, à demi couchée sur le divan, ayant grand soin de retirer ses pieds de dessus l'étoffe quand elle entendait madame trottiner dans le couloir. La patronne ne tolérait pas ses pauses. « Qui, disait-elle, blessait la bienséance et le rep des meubles ?» Ce travail, facile et machinal, ne lassait pas Lucie. Il ne l'empêchait ni de causer, ni d'écouter les histoires contées. Elle s'intéressait à Emilia, déclarant que ce salon froid et peu éclairé lui rappelait le couvent où elle avait été instruite par charité, et certainement, si son oncle ne l'avait violée un jour de soûlerie, elle serait restée très austère et très pieuse. Ce récit révoltait Lucie Tirache. Cet oncle lui apparaissait bien dégoûtant, et elle s'écriait avec une colère « Sont-ils cochons tout de même, ces hommes ?»« Ça, c'est rudement vrai, » affirmait Laurence. Il se narrait encore d'autres histoires. Mais l'accent anglais de Germaine ravissait surtout Nina. Elle s'amusait énormément à écouter sa camarade décrivant la misère de sa famille, les manies de son père, un clergyman qui avait eu 14 filles. Puis, soudain, une tristesse envahissait Lucie. Elle songeait que ses parents à elle n'étaient ni misérables ni méchants, et dans une sévère accusation de soi, elle se jugeait une mauvaise enfant. Le souvenir lui venait de son père, de sa rage indignée quand il la chassa, lui reprochant l'avoir déshonorée. Un gros chagrin la prenait. Elle restait abîmée en des pensées terribles, se considérant comme un être abominable, digne de toutes les infortunes. Cependant, une question de Laurence venait interrompre ses réflexions. « As-tu fini le bouquin que je t'ai prêté ?»« Oui, je l'ai lu avec Emilia. C'était joliment beau. » Elle résumait l'ouvrage avec des admirations. Les fins indécises des chapitres l'avaient surtout émotionnée. Il fallait être pas bête du tout pour faire des livres comme ça. « Oui, mais seulement, expliquait Emilia, il y a quelque chose d'idiot. C'est un curé qui veut coucher avec Gemma. Tu sais, la jeune fille qui épouse Ribéric à la fin quand sa blessure a guéri. « Pourquoi est-ce idiot ? » demanda Laurence. « Tiens, parce que c'est pas vrai. Les curés ne sont pas comme ça du tout. J'ai vécu assez avec, peut-être, je le sais bien. Il ne voudrait pas faire de peine à Dieu. Bon, la voilà repartie avec son bon Dieu, cette calotine-là, » clamait Reine, agacée. « Ah, tu sais, toi, Reine, ne dis pas de mal du bon Dieu, ça porte malheur. Et puis, si on ne croyait pas aller au ciel plus tard, avec ça que ce serait drôle, la vie. Ah bien, si tu y crois y aller avec la vie que tu mènes, toi. Eh bien, quoi, pourquoi pas? Quand on fait pas la noce pour son plaisir, on est toujours pardonné, bien sûr. Seulement, dame, il faut toujours penser à Dieu, et puis faire bien ses prières, voilà tout. Avec ça que tu n'y prends pas du plaisir à rigoler. Moi, jamais de la vie. Pourquoi que tu fais la noce, alors? Tiens, si ta mère t'avait foutu à la porte, sans un sou et enceinte encore, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Quand j'ai été accouchée, il a bien fallu que je vive, et puis que j'avais pas d'état. Mais c'est égal. Si je serais au père, je filerais un rude coup. Et puis les hommes pourraient encore venir me courir après. C'est moi qui les rembarrerais. En attendant, je fais ma prière tous les soirs à Sainte-Madeleine, une prière qu'on m'a apprise, même qu'elle n'est pas longue du tout. Avec ça, on est sauvé. Et puis, si je me confesse avant de mourir, je serai pardonné. » Avec un grand respect, les femmes écoutaient les explications prolixes d'Emilia. Reine se retirait en un coin, haussant les épaules. La dévote expliquait la religion et racontait des miracles qui émerveillaient Lucie Tirache. Elle pensait qu'un être comme Jésus, capable de ressusciter les morts, devait être un dieu, certainement. Elle demanda à sa compagne de lui enseigner sa prière à Madeleine. Si ça ne pouvait pas faire de bien, ça ne ferait toujours pas de mal. Reine, agacée à la fin, demanda. « Est-ce qu'il ressuscite aussi les pucelages ?» dit Emilia. Une quinte d'hilarité torsionna les femmes, la dévote elle-même, et toutes se mirent à lâcher des plaisanteries. Lucie, d'abord, avait trouvé sale ce genre de distraction. Peu à peu, elle s'y était habituée, devint même très habile à détourner de leur sens primitif, pour les rendre grivoises, des expressions très simples. Mais Reine, en ayant lâché une plus forte que les autres, toutes se récrièrent après avoir ri. On n'était pas dégoûtante comme ça. Est-ce qu'elle se croyait chez Blanche, dans une maison à soldats? C'était révoltant à la fin. Si madame l'entendait, elle serait contente, vraiment. On croirait une fille de passe. Et Laurence, avec acrimonie, déblatéra sur les passes que Donna ramassait dans la rue pour les servir aux débauchés. Il y en avait beaucoup aux sept, en ce moment-là, à cause du conseil de révision. Elles resteraient jusqu'après les examens de mars, où affluaient les étudiants. « Si encore c'était tout !» renchérissait Emilia. « Mais l'autre jour, madame disait qu'il en arriverait encore beaucoup pour les fêtes de Gaillan, et puis pour la rentrée des vacances. Comme c'est amusant, des sales filles qui font le trottoir !» Lucie Tirache les méprisait. « Si c'est permis, en voilà une bêtise de voir être libre à ce prix-là. »« Oh, et puis, monsieur, les protège trop, elles deviennent hardies !» remarquait Reine. « C'est parce qu'il est trop bon !» répondit Nina. Elle ressentait à l'égard de monsieur une craintive admiration. Ce potentat faisait de rares apparitions parmi les femmes quand éclatait une querelle trop violente pour que madame pût l'apaiser seule, ou quand une bande de pochards menaçait dévaster l'établissement. En dehors de ces rares solennités, monsieur ne se montrait pas. Il découpait à la mécanique de minces porte-pipes en bois, ne descendant de son atelier que s'il avait réussi particulièrement une pièce pour la soumettre à tout son personnel dans un triomphe. Lucie lui trouvait l'air très distingué, l'estimait fort instruit. Si jamais elle se mariait, elle aurait voulu avoir un époux dans son genre. « Et puis, il travaille si bien !» ajoutait-elle émerveillée. « La toilette, mesdames !» C'était la gouvernante qui prévenait les filles de s'habiller pour la soirée. « Déjà ?» Elle se levait, ravie de cette distraction. Pendant une heure, sous l'œil bienveillant du patron promenant son pantalon blanc dans le couloir, c'était un va-et-vient continuel. Ces dames se rencontraient sur l'escalier, un pot dans une main, un seau dans l'autre. Et, dans la salle tendue de cuir rouge, les banquettes qui recouvraient les baignoires ayant été retirées, les femmes faisaient leurs ablutions en riant, en se jetant de l'eau à travers la pièce. Ensuite, Lucie Tirache grimpait lestement l'escalier, toute frissonnante de la fraîcheur qui régnait dans la cour couverte et dans le couloir. Madame la rejoignait dans sa chambre, et tandis que la fille s'habillait, elle inspectait minutieusement l'armoire à glace, les effets, en faisant mille questions. Elle confiait à Nina que, décidément, Reine était trop brutale avec les messieurs, elle serait obligée de la changer. Et Lucie, très fière de ses confidences, énumérait les défauts de sa compagne, engageait la patronne à la faire partir. Ainsi, elle se donnait des airs de supériorité. Mais madame s'apaisait. « Pensez donc, une nouvelle que je ne connaîtrai ni d'Ève ni d'Adam. » Et elle supposait cette future pensionnaire avec tous les défauts. Elle finissait par dire « Je vais encore essayer comme ça, quelque temps. Tiens, appelle-la un peu que je lui parle. » Bientôt, toutes les femmes étaient réunies dans la chambre de Nina. Madame épanchait des conseils, des recommandations. « Surtout, n'est-ce pas, il faut être bien aimable avec le monsieur à favori d'hier soir. C'est un homme très bien, qui a de l'argent. Celle qui saura le prendre, il lui paiera ses dettes et il la mettra dans ses meubles. Vous verrez ce que je vous dis. » La patronne descendue, les voix s'élevaient en un concert d'éloges. Lucie Tirage demandait « Est-ce qu'ils sont riches, les Donnard ?»«
Je te crois, » répondit Laurence.
« Ils sont tous patrons de père en fils dans cette famille-là. Et tu sais, ils en gagnent de l'argent. »
« Oui, même que le père à monsieur, il tenait une maison au bout de la rue d'Arras. »«
Et elle ?»«
Elle, c'est la fille de la mère Trumet, celle qui avait le 7. Sa mère l'a mise en pension jusqu'à 20 ans, et puis ensuite, le père Trumet l'a enrôlée dans son bataillon. » »«
On dit aussi que celui qui l'a eu le premier a payé 1 500 francs. »«
Pour une seule nuit ?»«
Ah, je sais pas. C'est joli tout de même. »
« Je crois bien.
Mais aussi, elle est encore fort riche, » remarquait Lucie.
« Oui, elle a du galbe. La mère Trumet a dû être contente de sa fille ce jour-là. »«
Oh, elle l'adorait, sa mioche. Aussi, elle l'a mariée avec un homme très bien, qui a fait son droit. Et puis, il nous évite un tas d'embêtements avec la police, parce qu'il sait bien ce qui est défendu. »«
Elle doit être joliment heureuse. »
« Elle le mérite bien, c'est une bonne femme, et dire qu'il y a des gens qui lui reprochent son état.
Faut-il être bête ?
Et puis il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. »
« Et elle n'est pas sotte, elle ?
Oh non, alors !»
Comme elle sait deviner les carottes qu'on veut lui tirer.
Elle ne se laissera pas flouer, allez, cette femme-là.
Il n'y a pas de danger, elle tient trop à son argent pour ça.
Ça se comprend ? Quand on a eu tant de mal à le gagner.
Peu, elle n'a pas eu tant de mal que ça. C'est la mère Trumet qui lui a tout laissé. Et puis le père Donnard. Sans compter que la maison ne va pas déjà si bien.
Elle la laisse joliment tomber. Elle ne s'en occupe pas assez.
Ça, elle est flemmarde comme tout.
Pourtant, ça ne va pas d'être flemmarde quand on est intéressé comme elle.
Pour ça, elle l'est intéressée.
« Vois-tu comme elle vient toujours fouiller partout, pour voir si nous n'avons pas d'argent en cachette ?»«
Oui, elle a une peur bleue que nous ayons des économies et qu'un beau jour nous lui payions nos dettes pour la planter là. »«
Elle nous espionne rudement. »«
Oh oui, alors, elle nous espionne. Elle est toujours sur notre dos. »«
Ne parlez pas si haut, tas d'imbéciles. Elle est peut-être derrière la porte. Elle écoute toujours tout ce qu'on dit. »
Et Lucie Tirache allait voir doucement par le trou de la serrure s'il y avait quelqu'un dans le couloir. Chapitre 4. Une dernière fois, Lucie Tirache fut se mirer en les glaces du salon vert. Cette robe blanche à pois bleus, rigide d'amidon, lui seyait à merveille. Sa peau était toute rose et toute blanche, aussi fraîche que le costume. Elle n'avait pas mis de fard. Pour aller à la campagne, c'était inutile. Et ne pas sentir l'épiderme tiré et tendu sous le blanc gras lui paraissait une sensation nouvelle, très agréable. Cependant, elle craignit que le soleil, le grand air, ne halât son teint, et elle passa sur son visage la caresse blanchissante d'une houppette à veloutine. Elle revint au couloir. Laurence et Emilia attendaient la voiture qui les devait venir prendre, la Donnard ayant décidé une partie champêtre pour ce jour-là. À un bruit de ferraille dansant dans la rue Pépin, elles se ruèrent vers l'escalier, appelèrent « Madame !» toutes ensemble. Et dans le nacre, après un bonjour digne, hoché à la face souriante du cocher, ce fut toute une affaire, étaler sans froissement les jupes empesées qui craquaient à chaque geste. La patronne, très à l'aise en une robe de popeline bleue, se moque de leur coquetterie. Par la ville, le fiacre roula. Madame avait voulu qu'on traversât les places. Ce serait plus gai. Sur la place d'Armes, les cafés verdoyaient et murmuraient un cliquetis de vaisselle. Des conversations. Lucie se rappela son arrivée dans la ville, les craintes qui l'agitaient alors.
Elles étaient bien ridicules, ces terreurs.
Une rude chance, être venue aux sept. N'est-ce pas charmant, cette promenade hors les murs? Ce goûter qu'on allait faire dans la propriété de la patronne, avec les bonnes choses juchées sur la toiture du fiacre, en deux grands paniers? Au café du centre, un monsieur la reconnut et lui envoya des baisers. Madame, très contrariée, lui ordonna de se retirer de la portière. Elle lui ferait avoir des désagréments, cette grande folle-là. Le soleil se dardait lourdement dans la rue de Paris. Il blanchissait le badigeon pisseux des maisons, illuminait les lettres noires des enseignes. Aux femmes, toujours enfermées, ce soleil parut magnifique. Éblouies, elles furent obligées à regarder du côté de l'ombre. Trois cochons, éventrés à la porte d'une charcuterie, excitèrent l'apitoiement de Lucie Tirache. Elle s'emporta contre Emilia, qui s'intéressait à voir le sang filer sur la graisse blanche, finir par goûter en des terrines posées sur le trottoir. Elle s'indigna, répliqua aux plaisanteries par un argument qui amena le silence. « Qu'est-ce que vous diriez si on vous en ferait autant ?» La chaussée s'allongeait, irrégulière, entre des bâtiments rentrants et sortants, des pâtés de construction où des ruelles sordides étaient percées. Madame en indiqua une très noire, très sale. « C'est là que demeure Blanche, la dernière maison près du rempart. »«
Ça pue-t-il !
Comment des femmes peuvent-elles vouloir travailler là-dedans ?» La donna raconta des horreurs. Les artilleurs s'y battaient à coups de sabre et rossaient les femmes. À la porte de Paris, un lignard en blouse de treillis était vautré sur un banc. Il se redressa subitement, clama. « Tiens, les pucelles en sapin !» Ces dames s'exclaffèrent et penchèrent par le vasistas une gesticulation amicale. Nina agita son mouchoir tant que le soldat fut en vue. Lentement, le fiacre s'avança dans la porte entre les hautes murailles. Puis le cheval trotta. La fille eut une rapide vision de l'octroi. Deux hommes, en casquette galonnée, écrivant derrière les fenêtres d'une maisonnette neuve. En voilà une vie qui ne devait pas être drôle, être toujours enfermée, ne sortir que pour visiter les voitures. Mais brusquement, à droite, la plaine lui apparut, gisant au loin, ondulante, toute verte. Dans une avidité de voir, elle resta silencieuse à contempler les champs. Maintenant, la vanité qu'elle avait eue de se sentir voiturée parmi les piétons avait disparu. Tout entière, elle était accaparée par le spectacle nouveau de la campagne. L'uniformité plate des terres lui paraissait énorme et superbe, et les fils d'arbres, perdus en une brume blanchâtre qui terminait le paysage, semblaient être à une distance infranchissable dans un lointain indéfini. Par-dessus les cimes feuillues d'un bosquet, une cheminée de fabrique s'amincissait vers le ciel, soufflant des nuages noirs, et l'immensité du sol cultivé montait dans le ciel bleu, bosselé par les meules jaunes, ravé par les rubans des chemins, où les voyageurs étaient perçus comme des points immobiles. À gauche de la route, des plantes potagères, régulièrement espacées, laissaient voir la terre grise entre leurs alignements. Laurence les dénommait dans une joie. « Ça, c'est des choux. Ça, c'est des asperges. Celles qui ont des feuilles frisées, c'est des carottes. Celles qui s'enroulent à de grands bâtons, c'est des haricots. » Lucie écoutait avec attention, répondant. « Ah, vraiment ?» Et elle regardait, bouche béante, une émotion dans les yeux. « Quoi, c'était ça qu'elle mangeait ? Comme c'était différent sur la table !» Soudain, toutes parlèrent à la fois, bâtirent des projets de retraite champêtre pour le jour où elles seraient au pair. Elles montraient un si grand désir d'abandonner leur ville et leurs conditions que madame, vexée, se récria. « Ah, c'est comme ça que vous me quitteriez ? C'est bon à savoir !» Elles protestèrent. Laurence embrassa la patronne. Mais Lucie Tirache, penchée à la portière, ne se lassait pas de considérer la plaine où les labourés mettaient des taches brunes, les jachères des taches jaunes. Elle suivait le va-et-vient des rouloirs aplanissant le terrain,
les efforts mesurés des chevaux, que ne semblaient émouvoir les coups de fouet. Ailleurs, les sarcleuses, la tête cachée sous les capotes de toile, s'avançaient en ligne, péniblement courbées. Et jusqu'à Lucie arrivaient les cris des conducteurs, comme une plainte affaiblie. Elle prenait plaisir à voir travailler les autres, à s'apitoyer sur leur sort, estimant sa carrière fainéante bien plus heureuse. « Oui, mais plus tard, » pensa-t-elle. Et ce « plus tard » lui sembla obscur, plein de menaces. Elle n'était pas certaine, comme ces pauvres paysannes, de trouver jusqu'à la fin l'abri gagné par le travail. Et elle se prit à réfléchir, très triste, trouvant que la campagne énorme, éclairée par le soleil de 3 heures, avait une mine de félicité tranquille, de bonheur égoïste, indifférent à son état. Le fiacre cahotait entre la fabrique qu'on avait atteinte et des maisons basses, à enseigne de cabaret. Des ouvriers, la bouche pleine, taillaient des tartines en des châteaux de pain. Lucie, prise d'une curiosité, interrogea madame. « Qu'est-ce qu'on fait dans cette fabrique ?» Personne ne le savait. On s'égara en des suppositions contradictoires. « Tenez, voilà l'ambre, et la maison est là-bas, dans les arbres. » Toutes se penchèrent. La route poudreuse allait vers une masse de feuillage dont les trouées laissaient voir une bâtisse blanche. Elles ne quittèrent plus des yeux cette perspective, écoutèrent les renseignements que donnait la patronne. Elle l'avait achetée en 1876 à un monsieur habitant Le Quesnois. On arriva. La maison se trouvait au fond d'un jardin très boisé, ceint d'une haie. Au milieu de la haie, deux pilastres en briques servaient de chambranle à une porte jaune. Les femmes entrèrent en secouant les plis de leurs costumes. Elles lissèrent leurs tailles par des caresses qui enveloppaient toutes les rondeurs. Et aussitôt, ayant vu un ruisseau qui serpentait entre les carrés de légumes, elles coururent, s'émerveillèrent à considérer les ventres nickelés des épinoches zigzagant dans l'eau verte. Émilia s'accroupit au bord, essaya de les attraper. Elle ne réussit qu'à se mouiller les mains et à faire des taches sur sa robe. Les autres femmes s'empressèrent autour d'elle avec des exclamations désespérées. C'était bien ennuyeux, une robe qu'on étrennait. Il fallait toujours quelque chose pour gâter la joie. On suivait le cours d'eau. Madame avait pris le bras de Lucie et continuait à faire l'historique de son acquisition. Maintenant, elle énumérait les réparations qu'elle avait dû entreprendre. « Le long du chemin de halage, j'ai été forcée de faire construire un mur, parce que les cordes des bateaux mangeaient la haie. C'en était dégoûtant. »« La rivière passe tout près ?»« Mais oui, c'est la Scarpo. Il y a toujours des bateaux. Pour qu'on puisse voir, j'ai fait poser une grille dans le mur. » Les femmes allèrent à cette grille. Au pied, le mâche-fer au chemin était étalé, et au-delà, l'eau stagnait en une nappe huileuse. Un bateau noir de goudron se dressait, immobile. Sur le pont, entre des empilements de sacs, une minuscule guérite s'élevait, blanche et rouge. Cette guérite occupa beaucoup Lucie. Elle se demandait comment les bateliers pouvaient vivre là-dedans, sans air, entassés les uns sur les autres. Ça devait sentir joliment mauvais. Comme personne ne sortait de la cabane, contre son attente, elle quitta ce lieu, se mit à marcher entre les parterres. Les autres la suivirent. Les fleurs, arrangées en corbeilles, lui parurent très jolies. Elle s'extasia devant les fines clochettes des fuchsias, les couleurs éclatantes des pensées, les épanouissements des roses, qu'Emilia comparait à de petits choux. La donnard avait des souliers neufs dont les lacets se dénouaient sans cesse. Chaque fois qu'elle s'occupait à les attacher, les filles arrachaient vivement une fleur et la cachaient dans leur poche. Soudain, Emilia découvrit une grenouille tapie près un plant de géranium. Elle la ramassa et se mit à poursuivre Laurence, menaçant de la lui jeter. Nina, réfugiée auprès de la patronne, craignait fort, sans oser le dire, qu'Emilia ne vînt l'attaquer aussi. Mais Laurence, essoufflée, s'arrêta très en colère, déclara à sa compagne que, si jamais elle la touchait avec cette vilaine bête, elle verrait un peu. Émilia lâcha la grenouille et reprit sa poursuite. Alors, avec de grands éclats de rire, la Donard et Nina se mêlèrent à ce jeu. Il y eut une course folle à travers les arbres, des enjambements maladroits par-dessus les parterres et des embrassades furieuses quand on s'attrapait. Elles redoublaient leurs gambades, levant très haut les jupons. Elles avaient remarqué les œillades que lançait dans leurs dessous un jardinier émondant les saules. La mine piteuse du mâle les amusa beaucoup. En courant, elles escaladèrent un tertre qui dominait le mur et le paysage extérieur. Devant une fabrique, au bâtiment noirci, la scarpe coulait, s'enfuyait sous un pont vers les remparts de la ville. Un chalet se montrait sur la même rive, bouchant la vue de la campagne. Lucie fit remarquer que ce tertre était mal placé. On aurait dû l'ériger de l'autre côté du jardin, du côté où on voyait les champs.
« C'est si beau, les champs !» dit Émilia.
« Madame, appuya Laurence, voulez-vous que nous y allions dans les champs? Nous cueillerons des reines marguerites. Il y en a plein dans les fossés, je les ai vues en venant. »
« Allons-y, si vous y tenez !»
autorisa la patronne. Elles s'enfurent le long de la haie, jusqu'à la porte, en chantonnant. Seule Lucie était silencieuse. Elle allait revoir les travailleurs. Elle songea à sa condition, à Léon, qui, maintenant bien loin d'elle, l'avait sans doute oubliée. Elle s'abîma en une mélancolie, se rappelant le passé, ses joies de jeune amoureuse. Perdue toutes ses félicités. Heureusement que lui ne savait pas sa position, ne se la représentait pas, ainsi qu'elle était, salie par toutes les lèvres, avilie par tous les contacts. Et le malheur, c'est qu'elle était sans courage pour sortir de cet état. Et puis elle n'était pas libre, les dettes s'accumulaient, la Donard la tenait par là. Déjà on était sorti du jardin, on longeait les champs sur la route. Un cri d'Émilia qui marchait au haut du talus fit retourner Lucie. « Tiens, un nid de chrétiens !» Elle alla avec les autres à l'endroit que la fille indiquait. Les herbes étaient couchées sur un grand espace, foulées, mâchées. Une épingle à cheveux s'accrochait à quelques brins de seigle vert. Il y eut une avalanche de plaisanteries grivoises, une supputation d'espasmes voluptueux dont avaient frémi les êtres qui s'étaient vautrés là amoureusement. Et Nina se promit conter la chose, le soir, à ses clients préférés. Il ne manquerait pas de faire des réflexions très drôles. On rentra pour le goûter. Madame, partie en avant, conseilla à ses pensionnaires un court repos. Dans les herbes hautes, chacune se vautra moelleusement. Lucie, couchée sur le dos, voyait près sa figure les herbes se balancer, transparentes. Elle avait mis un mouchoir sur son front pour le garantir du trop ardent soleil. Dans ses cheveux, dans son cou, des brins de verdure la chatouillaient en une caresse agaçante que la fille recherchait. Et tout autour d'elle, c'était un bruissement continu, un cliquetement de tiges qui se redressent, un bourdonnement de guêpes en butin. En haut, le ciel très bleu, où filaient les ventres blancs des hirondelles, dont le vol circulaire s'abaissait tout à coup, soulevait sur l'eau transparente une écume d'argent. Lucie ne bougeait pas, désireuse de ressentir le frôlement de leurs ailes. Elle regardait vaguement les arbres, le gazon, frissonnant dans une buée violette. Et de ses pensées tristes, il ne restait plus rien. En elle était venue l'appétence d'une perpétuelle oisiveté, d'une torpeur alanguissante où elle s'abandonnerait délicieusement, enfoncée dans les grandes herbes. À un appel de la patronne, elle dut se lever, rejoindre Émilia et Laurence, qui s'avançaient en riant vers le jardinier. L'homme était assis sur la tête d'un saule et, muni d'un sécateur, il abattait les branches. Les femmes s'amusaient à entendre la mastication de l'instrument, à voir tomber les gaules avec des froissements. Laurence, la première, adressa la parole à l'ouvrier. « Vous aviez l'air joliment chaud tout à l'heure quand nous courions là-bas. »
« Oh, dame, je ne ravise pas tout dit des bélégomes comme nous. »
Ce patois les réjouit énormément. Elles s'amusèrent à faire causer le paysan. Bientôt, il descendit de son arbre et devint entreprenant. Il avait empoigné Emilia par la taille et voulait l'embrasser. À cette démonstration, les femmes se fâchèrent subitement, lui commandèrent de se tenir tranquille. Elles étaient vexées de se voir traiter ainsi par un homme de rien. Leur dignité se révolta. Avait-on jamais vu un pareil pignouf qui prenait des manières? Un instant, le jardinier resta ahuri, puis il cria avec une colère.
« Ah, bah, faut pas faire les bégueules, parce qu'on a mis des belles capotes. On est un homme tout de même, pas vrai? Alors de quoi? Il y en a assez d'autres qui ont frotté de panche et de putain. »
Les femmes s'éloignèrent, contristées. Mais dans la cuisine, l'aspect d'une table surchargée de victuailles, de bouteilles, de pâtisseries, les remit en joie. Elles mangèrent avidement. Elles s'amusaient à conter l'histoire du jardinier, qu'elles trouvaient très drôle maintenant. Et on trinqua à madame, une si bonne personne. On fit l'éloge de sa propriété en énumérant les splendeurs du jardin. Laurence, ayant par mégarde tiré de sa poche une des fleurs cueillies, la patronne la sermonna doucement. Toutes, enhardies par cette affectation de bonté, tirèrent également des fleurs de leurs mouchoirs. Un fou rire les prit. Madame elle-même se tordait en répétant « Gamine, oh, les gamines !» Le fermier, en entrant, interrompit leur hilarité. Lucie soupira, attendant l'annonce d'une catastrophe pressentie. « Madame Donnard, chez le voiture qui attend !» Des larmes vinrent aux yeux de la fille quand il fallut remettre son chapeau. Ses regards étaient si troublés qu'elle tourna ses brides à l'envers et eut beaucoup de mal à faire son nœud. Elle maudissait la patronne qui les ramenait à la boîte, où on allait les coffrer pour un long temps. Il fallait qu'elle fût sans cœur, cette femme-là, pour torturer ainsi de pauvres filles. D'ailleurs, il n'y avait pas à se plaindre, puisqu'on s'était vendu. Et ce mot « vendu » résonnait à son oreille sans arrêt. Une fois en voiture, quand elle eut mis son visage à la portière, les plaisanteries de ses compagnes, la paresseuse jouissance de se sentir mouvoir sans agir, rendirent à Lucie sa bonne humeur. Elle se trouva bien, ainsi, assise sur des coussins capitonnés. Du reste, il fallait prendre la vie comme elle venait, sans se casser la tête à chercher midi à 14 heures. Calmée par cette réflexion, elle contempla béatement le ciel de pourpre qui flambait à l'horizon sous les arbres. Douai se cachait derrière la verdure des remparts, et par-delà les feuillages, le beffroi dressait ses clochetons dont l'or s'irradiait. Lucie Tirage devint presque gaie, puis tout à fait joyeuse. Elle éclata même de rire en voyant sur le bord de la route de tout petits garçons qui relevaient leurs chemises pour découvrir les blancheurs de leur ventre. À la vue des fortifications, du pont qu'on allait franchir, il revint à la fille comme un vague désir d'être déjà rentrée, de voir si les choses étaient en leur place au 7, de considérer monsieur et les faces accoutumées des clients. Quand les employés de l'octroi visitèrent la voiture, elle fut très drôle. À leur demande « Vous n'avez rien à déclarer ?» Elle tira gravement son porte-monnaie et dit « Combien ça paye, les petites femmes ?» Et le fiacre rentra dans la ville, bavant des éclats de rire, ramena au 7 les femmes hilares.